Bonjour Chantal.
Bonjour Violaine.
Bonjour à toutes
et à tous.
Bienvenue dans le troisième épisode de Zone Vocale, une émission portant sur les enjeux politiques, intimes et artistiques de la voix.
Lors de rencontres avec des personnes qui ont fait de la voix le centre de leur existence.
Chanteuse, soignante, poète, poétesse,
compositrice, penseuse, artiste sonore.
Nous proposerons un espace de partage et de réflexion sur la manière dont l'usage de la voix peut être une zone d'empowerment.
Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Gorge Bataille.
Bonjour Gorge.
Bonjour.
Poète et performeuse, Gorge Bataille, aka Elodie Petit, s'est formée à l'École des Beaux-Arts de Lyon et dans les milieux alternatifs. Elle travaille une prose critique et pirate qui mêle introspection sociale, manifeste, réflexion politique et poème amoureux. Elle construit des fictions transgressives, traversées par le trouble identitaire, l'écriture sexuelle et la lutte des classes. Avec Fiévreuse plébéienne, aux éditions du Commun 2022, elle initie ce qu'elle nomme la langue bâtarde, une poésie prolétaire, expérientielle, menaçante et gouine. En 2021, elle a publié Anthologie douteuse, sur les années 2010-2020, aux éditions Rotolux Presse, qui retrace 10 années de fanzine queer et poétique avec Marguerin Lelouvier. Elle aime déplacer la poésie hors des lieux prévus pour elle et performe seule ou en groupe dans des bars lesbiens ou des institutions d'art contemporain, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, le CAC de Genève, etc. Elle collabore avec des artistes sonores comme Mona Cerveau, Mary Lampe, et elle fait partie du collectif d'Autrix, RERQ, et anime régulièrement des ateliers d'écriture collective.
Eh bien,
impressionnant.
Donc on va aujourd'hui essayer d'aborder ton travail sous l'angle de la voix. Alors la voix justement à l'intersection du politique, de l'intime, toutes ces questions intersectionnelles. Donc sans doute va y avoir pas mal de sujets à être abordés dans ta pratique, peut-être pas tous. Et pour commencer, je voulais un petit peu rappeler la manière dont on s'est rencontrés, et apparemment on s'est même re-rencontrés, parce qu'avant l'émission, tu me faisais part d'une rencontre encore préhistorique à l'histoire. Mais en tout cas, moi, la rencontre avec ton travail, dont je me souviens, c'était en 2021 au Festival Littérature, etc. à Lille. Et donc je me rappelle avoir été marquée par ta puissance, en fait, sur scène, sur ta voix qui scandait ces textes puissants et qui était quelque chose d'assez cru et à la fois sensuel, qui avait quelque chose aussi du rock, beaucoup, et en même temps, presque une posture révolutionnaire. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce travail-là. Et donc, Zone Vocale, c'est le moment de se connaître un peu plus. Et ça nous a permis, avec Chantal, de rentrer un peu plus dans ton travail, qui est vraiment intéressant. Et la première question qu'on aurait eu envie de te poser, c'est justement l'usage de la voix dans ta pratique, qui à la base est plutôt dans le régime de l'écriture, avec un rapport au dessin tout de suite qui est posé, notamment avec la création de fanzines dès que tu étais étudiante aux Beaux-Arts. Donc peut-être que tu vas pouvoir revenir un peu sur les origines de ton travail et à quel moment est arrivée la voix. Est-ce que c'était là depuis le départ ou est-ce qu'elle est venue dans un second temps?
Alors déjà Violaine, je te remercie pour tout ce que tu viens de me dire, parce que ça me touche beaucoup. Et ça me touche énormément. Et donc la voix, c'est arrivé beaucoup plus tard, beaucoup plus tard que les Beaux-Arts. En fait, aux Beaux-Arts, je suis rentrée effectivement avec que de l'image, du dessin et de la peinture. Et je suis sortie avec seulement du texte et du fanzine, de la micro-édition. Mais c'est vrai que j'expérimentais pas la performance à ce moment-là. Et les moments de prise de parole étaient plutôt quelque chose de douloureux. Faut savoir, moi j'ai fait deux écoles, j'ai fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne, puis j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon. Et c'est vrai que par exemple, à Saint-Étienne, c'est pas quelque chose qui était complètement. Les prises de parole publiques, donc montrer son travail devant tout le monde, c'était quelque chose qu'on pouvait décider de. On pouvait décider qu'il y ait du public ou pas, par exemple. À Lyon, c'était. On ne posait pas la question, c'était dès qu'on faisait des accrochages, il y avait des fois 60 personnes qui étaient là, et l'idée, c'était quand même d'être à l'aise avec ce qu'on. Raconte, mais c'est pas inhérent. Enfin, on n'est pas avec
c'est pas automatique,
cette facilité de prendre la parole. Et c'est vrai que c'était une école en plus qui était très conceptuelle. Et moi, c'était pas mon endroit, l'art conceptuel. Et voilà, c'est vrai que j'étais plus dans quelque chose de un peu plutôt punk, plutôt même dans un imaginaire punk qui est très sexuel et très direct comme ça, efficace, mais j'étais pas dans une. Enfin voilà, je savais pas parler de mon travail en fait. C'est venu beaucoup plus tard. Et quand je suis sortie donc du coup de l'école avec de l'écriture, en fait, quand on fait de l'écriture, on est invité à lire nos textes. Et c'est quelque chose qui me semblait bizarre en fait au départ. Les premières lectures auxquelles j'ai assisté, je trouvais ça toujours extrêmement pénible et mortifère. Et je trouvais ça ennuyeux en fait. Et je me disais qu'on n'était pas forcément les meilleures personnes pour lire nos textes. Mais aussi parce que j'avais l'exemple peut-être de personnes qui étaient très accrochées à leurs livres et à leurs mots et qui avaient du mal à les offrir, comme si elles avaient du mal à se séparer de, à lâcher en fait ce qu'ils avaient écrit. Et on n'a pas en France une culture de. Il y a une culture de la poésie sonore. Elle est très peu visible et elle était très peu à l'époque. C'est-à-dire que, il y a eu Pennequin, il y a eu l'Armée Noire, il y a tout ça. Enfin voilà. Et sinon, on passe à du slam, mais pareil, moi, les premières scènes ouvertes, je les ai vues il y a 8 ans quand j'étais à Montréal. Donc c'était vraiment dans un. Voilà, c'était outre-Atlantique, mais c'était en France, il n'y avait pas toutes les performances qu'on voit maintenant autour de, du texte poétique. Et en tous les cas, donc au début, je faisais lire mes textes. Puis j'ai voulu profiter des cachets. Alors je me suis dit qu'il fallait que je lise mes propres textes pour empocher l'argent. Et je l'ai fait, je pense, de manière très timide au départ. Enfin, timide et en même temps tout en récitant quand même des textes pornographiques. Donc il restait toujours quelque chose un peu de la provocation, et c'est vraiment venu avec le temps en fait d'aimer faire ça et d'aimer le transmettre comme ça, et aussi de se rendre compte à quel point c'est puissant. Parce que ça peut vraiment s'inscrire ailleurs. C'est-à-dire que la poésie, elle peut sortir des livres, et que c'est vraiment avec la voix que tu peux, c'est populaire en fait. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on oublie en fait. Parce que les poésies à l'école, on les apprend par cœur et on les récite. Et c'est toujours un moment douloureux. Enfin moi, je me sens que c'était l'enfer. Et à quel point ça peut être beau. En fait, sa foi, elle chantait ses poèmes, par exemple.
Ouais, c'est ça. À la base, la poésie,
c'est
ou même d'ailleurs
tous les
récits d'époque sont des choses qui n'étaient pas écrites et qui étaient mémorisées, donc forcément scandées, parce que ça va toucher des zones de mémorisation qui sont pas les mêmes. En fait, c'est pour ça qu'il y a les prières, tout ce qui est poésie, ça a du rythme, parce que ça vient toucher une zone qui est plus musicale et qui touche au cerveau reptilien. Je ne pourrais pas aller plus en détail. Mais en tout cas, ouais, la poésie, à la base, évidemment, elle est orale, et c'est avec l'arrivée donc de l'imprimerie, bon, aussi évidemment de l'écriture, j'imagine, mais qu'il y a quelque chose qui s'est un peu inversé dans ces rapports-là. Par rapport à tu commençais à parler du mode de diffusion aussi de la performance, tu parlais notamment du cachet, donc ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a un bon nombre de poètes, poétesses qui en sont arrivés à lire leur ouvrage en public pour des raisons économique.
Exactement.
Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant aussi de voir à quel point c'est ce côté très trivial, finalement, révèle aussi comment une forme se développe à un endroit ou non. Et en tout cas, sur la zone de diffusion, ce que Chantal en parlait dans ta biographie, tu vas diffuser tes performances un peu comme un fanzine. C'est-à-dire que le fanzine, c'est un objet qui est assez génial parce que comme la performance, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de modes de moyens de production. Donc, s'il y a un côté, que en tant que performeuse, et j'imagine toi aussi, t'aimes ces côtés, pam, tac, ta voix, ton corps, et pam, on y va. Et dans le fanzine, il y a un côté comme ça où ça peut s'imprimer là sur ton imprimante dans ta chambre et tu vas le diffuser. Et donc, moyen économique et puis aussi mode de diffusion qui permet ce qui était dit dans la bio, d'aller autant du côté des institutions que dans la salle de bain, dans une salle de bain, dans un cabinet de toilette, je ne sais où. Enfin, le fanzine se diffuse partout. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur ce que je crois que c'est important pour toi aussi de penser la diffusion à ce niveau-là?
Ouais, j'aime bien effectivement j'adore ce truc très pragmatique et lié à une économie, lié à la réalité. Tu vois, c'est clair que par exemple, l'écriture, ça ne demande pas d'atelier et ça ne demande pas de matériel. Enfin, c'est quand même quelque chose que tu peux faire partout. Et voilà, et la voix, tu l'as avec toi. Enfin, moi, j'adore cette économie-là. Et effectivement, en fait, ce truc de... Il n'y a pas d'économie liée au livre. Enfin, tu dois l'inventer. Enfin, du coup, il est évident que la performance, ça fait partie du lieu à exploiter pour trouver de l'argent, pour vivre. Et si tu veux vivre de ta pratique, évidemment. Ce qui est toujours souhaitable.
Mais du coup, dans l'acte de diffusion possible, tout azimut que permet le fanzine ou la performance, il y a aussi le fait que tu vas aller toucher des milieux qui peuvent être éloignés des questions qui sont posées dans ton travail. Et il semble que la transmission aussi soit quelque chose de cet ordre-là chez toi. C'est-à-dire que l'aspect politique de ton travail, il est aussi là où le travail va aller chercher dans des zones où ces questions que tu poses, peut-être que tu vas en parler, des questions posées par ton travail, parce qu'elles sont multiples, mais là où elles sont peut-être plus invisibilisées, voire inexistantes, enfin en tout cas où elles n'ont pas de visibilité dans l'espace public, parce que tu donnes des ateliers un peu partout, je crois.
Ouais, mais même si ces dernières années, je me suis quand même retrouvée beaucoup à donner des ateliers en école d'art.
Ah d'accord.
Ouais. Et c'est vrai que j'ai... C'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouve que justement, je devrais aller plus partout, mais qu'en fait, des fois, tu es rattrapé par une rentabilité de ta pratique. Et c'est pour ça que je pense que des fois, c'est pas forcément souhaitable de vivre de son travail de création. Enfin, je pense que c'est un peu une connerie parce que tu es rattrapé par une rentabilité ou par ton propos t'échappe, en fait. Quelque chose comme ça, tu vois. Et et en fait, après, c'est vrai que dans les ateliers qui m'ont le plus marqué, c'est forcément dans des lieux, c'est dans un lycée à Bobigny, par exemple, ou une classe de SECPA à Pantin, ou alors une EHPAD, en fait. Enfin, c'est parce que, justement, la poésie, en fait, ou la langue, à ce moment-là, en fait, elle n'est pas innée, en fait. Elle est à construire encore. Et elle est, surtout par exemple, dans les écoles ou dans les lycées, on voit le mal que ça fait d'être à l'école, en fait, tout simplement. T'es dans une attente. Et même quand t'es adolescent, tu veux tellement bien faire que... moi, je me sens que j'étais venue avec c'est une anecdote, mais je leur avais proposé, donc c'était lycéen, je me suis dit on va pouvoir plagier ou déconstruire en fait des textes du bac qu'ils avaient au programme du bac. Et du coup je leur avais fait écrire par exemple Balzac en langage SMS, tu vois. Et vraiment ils voyaient pas l'intérêt, elles voyaient pas l'intérêt de ce que je leur faisais faire parce que ça leur paraissait, c'est pas un truc qui va te servir dans la vie en fait. Effectivement c'est la vérité, mais pas directement. Mais et le fait de déconstruire alors que t'es là justement en train de te construire en fait et que, enfin voilà, ça les a, je sais pas, court-circuités. Et moi aussi.
Oui. Et quand tu disais tout à l'heure, enfin peut-être que là-dessus, Chantal, tu voulais rebondir, parce que les questions de transmission, c'est quelque chose qui te...
Oui, mais j'avais envie de passer sur le sujet, moi, qui me frappe beaucoup dans ce que j'ai pu apprendre sur toi. C'est ce mot « langue bâtarde ». Est-ce que c'est possible pour toi de nous apporter un peu de ton... Qu'est-ce que tu dis quand tu dis « la langue bâtarde » ? Ça me fascine assez, mais je voudrais en savoir plus.
Ben, à la base, c'était vraiment... C'est intervenu pendant l'écriture de « Fiévreuse plébéienne » que je voyais vraiment comme un livre manifeste. Il y a des manifestes comme ça qui m'arrivaient. Enfin, j'avais vraiment besoin de poser ce que j'imaginais de la littérature. Et ce que j'imaginais de la littérature, c'était des couches de langage. Et enfin voilà, après je pars vraiment de... c'est situé, je pars aussi de moi, mais qu'est-ce qui constitue en fait ma langue et les langues que j'aime lire, c'est celles qui ont conscience d'où elles viennent. Et voilà, moi je viens pas d'un endroit où... je viens pas d'un endroit intellectuel, je viens d'un milieu modeste, voilà, grands-parents prolétaires, enfin il y a vraiment... je suis pas née avec une belle langue, un truc comme ça. C'est un truc que j'ai appris par la suite. Et j'aime la littérature et ça m'a constituée et façonnée. Mais à un moment donné, ça m'a aussi perturbée dans ce que, j'étais ou de là d'où je venais en fait. Enfin voilà, tout ça, c'est des questions aussi de transfuge de classe, tout ça. Mais enfin voilà, la langue bâtarde, c'est une langue qui a besoin de se souvenir d'où elle vient, mais qui n'est pas attachée au père de la littérature, qui n'a pas de père, en fait, de toute façon. Enfin, c'est ça.
Peut-être qu'on peut avoir un exemple de...
Tout à fait. On va passer un extrait donc, d'un duo que tu as avec Meryl Hamp.
River, c'est comme la rivière qui passe proche de ton cœur. Une artère qui irrigue tes organes et ton crâne. Tes champignons. Mycose. Stagnante et proche du soleil, il élève des moustiques sans trompe. Dans l'ombre, il abrite des écrevisses et des champs amphibiques, dégénérés et plaintifs. Il est à cœur ouvert, complètement dramatique et hystérique, amoureux des berges. River dit : le débaptême, c'est commencer à naître et à respirer par le cul. River s'est apostasié à la lisière de sa bouche, a désiré enclencher la source qui ne tarissait pas à l'intérieur de lui. Plutôt que de condamner ses larmes à sa peine, il voudrait peut-être jouer le rôle de l'enfant scout, dont le mono dérape sous la tente, désirer un cadre à l'inceste, plutôt que de donner sa chatte à l'église, les yeux humides de haine. Gorge, comme la gorge des oiseaux, les gorges que l'on coupe partout dans le monde, les gorges du Verdon, les canyons dans nos côtes, se gorger d'amour et de désir pour quelqu'une, avec la gorge qui brûle, un chat dans la gorge. Caroline qui protégeait toujours sa gorge d'un foulard et de son parfum. Sauter à la gorge. Mal de gorge. La gorge en feu. L'anxiété logée dans la région du cou. Gorge angoissée. Contractée. Crispée. Nouée. Avoir le cœur dans la gorge. Le lieu de la voix. De l'incarnation, asseoir sa voix, incarner quelqu'une, taire, retenir, chanter, rire à pleine gorge, gorge déployée, au départ de gorge profonde, une vallée étroite et encaissée, un morceau de nature, un paysage vierge.
Eh bien, on vient d'entendre un passage d'une performance d'un duo qu'on a ensemble avec Meryl Hamp, qui est musicien noise, voilà, très grand musicien et très grand ami. Et voilà, on a un duo qui s'appelle Hamp Bataille. C'est quelque chose de puissant que j'aime beaucoup, mais on a une rencontre. Donc, je n'ai jamais envisagé, quand je travaille avec des artistes sonores, j'ai jamais envisagé que la musique viendrait poser un décor à mes textes ou viendrait illustrer quelque chose. Donc, personne ne vient illustrer l'autre. C'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire que la voix vient chercher avec la musique. Enfin, on est au même
endroit. C'est un tissage, oui.
Ouais, et c'est une collaboration, quoi. Et c'est un dialogue. Et voilà, et avec... donc, dans ce duo-là, on est en face-à-face avec Meryl. Il y a vraiment... il y a la puissance de la noise. Et il y a le fait que ce soit joué très fort qui m'a tout de suite amenée à scander. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment la première fois que je scande vraiment aussi... Enfin, vraiment, que je vais jusqu'au bout, en fait. Ou je sais pas, quelque chose comme ça. En tous les cas, ça m'amène complètement, complètement ailleurs, hein, presque dans une espèce de transe, en fait. Parce que le fait de devoir parler fort, hein, tu vois ce que ça fait quand tu parles fort, en fait, ça te fait un peu sortir de toi, en fait, ou de ton crâne. Et je me souviens que la première fois qu'on l'a fait, en plus, c'était la première fois qu'on l'a fait à la station. Ça a remplacé, en fait, je devais jouer avec Mona Servo. Mon acolyte chérie de ce soir-là, et en fait elle n'a pas pu me retrouver, et du coup on a improvisé en fait avec Meryl, qui vient en plus vraiment de la musique de l'impro, et on a improvisé en fait, on a vu la direction, on avait envie de faire un truc ensemble. Moi il y avait ce texte et j'avais envie qui s'appelle Point de fugue, qui parle de transition, de transidentité ou de Gwyn au torse plat, de champignons, de drogue et de testostérone. Enfin bon, tout ça un peu emmêlé. Et j'avais vraiment envie qu'on le fasse ensemble. Enfin voilà. Et donc voilà, il y avait ce texte que j'avais redécoupé. Il y avait Meryl qui avait pensé à du son. Enfin voilà, Meryl est sortie d'un concert. On a joué à 1h30 à la station dans un festival qui s'appelle le Storm Frey Festival et qui est initié entre autres par Arnaud Hidlon. Et voilà, qui s'évertue aussi à amener vraiment la poésie dans les lieux de fête, par exemple, les lieux de club. C'est puissant quand même. Et on se rejoint vraiment là-dessus. Et enfin voilà, et on a fait ce face-à-face cette première fois. Et c'était... enfin voilà, je me souviens en fait, ça m'a complètement émue. Et maintenant, ça a évolué. C'est le même texte qui a été un peu redécoupé, mais que j'ai un peu élagué. Parce qu'il y avait besoin, il n'y avait pas besoin d'autant de mots. Et Meryl a pris ma voix dans ses machines. Donc, on joue aussi sur des trucs de distorsion. Enfin, voilà. Après, moi, je suis aussi une auteure expérimentale. Et du coup, de travailler avec Meryl, qui est aussi un musicien expérimental, enfin, il y a quelque chose qui est... Enfin, voilà, c'est puissant, en fait. Je ne sais pas encore où ça va nous mener, mais c'est...
Ouais, c'est assez évident. Mm-hmm. Et c'est fou, je me disais, par rapport à ce que tu disais au début de... la timidité ou de tout ce qui te retenait dans les débuts et ce qu'on vient d'entendre. Je me dis que là, peut-être qu'il y a eu des rencontres fortes avec des musiciens, musiciennes, et puis peut-être ce que je... Tu fais
ça,
partie aussi
tard,
du...
Ouais.
C'est venu sur le tard,
ouais.
Du collectif RERQ.
Ouais.
Et il y a écrit quelque part sur ton site que vous alliez dire de la poésie comme un groupe de rock. J'ai beaucoup
parce
aimé.
Qu'en fait, mais parce que effectivement, par exemple, quand on se... Enfin, ça, c'était puissant. Hein. C'est-à-dire que c'était encore à la station. Comme quoi, c'est vraiment un lieu essentiel et important pour tester des trucs aussi. Hein. RERQ, on s'était rassemblés pour un festival qui s'appelle Comme nous brûlons. Et l'idée, c'était en 2018, il me semble. Et on pensait le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'on pensait même pas à se monter en tant collectif, mais on avait quand même choisi un nom. Et on se connaissait pas tous. Voilà, donc il y a Rebecca Chaillon, Camille Cornu, Etta Insver, Claire Starfinch, Wendy Delorme et moi, donc on est six. Et, mais par contre, ce qui nous rassemblait, c'est qu'on écrivait tous autour de la sexualité. Voilà, des gwynks qui écrivent, des gwynks qui écrivent sur le sexe. Et voilà, ça, c'est ce qui nous a rassemblés. Et donc, on a... Enfin, je me souviens que la première fois... Donc, on était six sur scène... avec chacune un texte à lire. Et je me souviens de la puissance que c'était d'être en collectif, d'être à plusieurs sur scène. C'est-à-dire, même si je venais pour porter mon texte, il y avait cinq autres personnes derrière qui étaient là. Enfin, c'était bouleversant, en fait, de se rendre compte. Enfin, c'est fou aussi, juste de... Mais à quel point on est tout le temps seul, ou on se montre seul, et à quel point on nous pousse à ça. Enfin, c'est délirant, en fait, alors que c'est pas... Enfin, c'est pas vrai. On sait que la création, c'est souvent dans la collectivité, les collaborations. Enfin, ça fait naître des choses puissantes. Mais voilà, on finit toujours par être seul sur scène.
Et rival.
Bah oui, mais c'est vraiment... On nous pousse à une espèce d'individualité comme ça. Et l'histoire de l'art est façonnée comme ça, ou façonne des histoires... de génie
de héros.
Artistique, voilà, c'est faux. Mais il y a des livres maintenant qui déconstruisent tout ça. Mais par contre, on finit quand même dans notre pratique. Et ça, c'est aussi un truc très pragmatique. Mais quand tu es en collectif, ça coûte plus d'argent. Enfin, tout est plus difficile, en fait. Ouais. Tout est plus compliqué. Et on te pousse, en fait, à intervenir seul. Enfin, moi, des fois, j'ai envie de faire des workshops. J'adore faire des workshops à plusieurs. Enfin, mais ça, c'est. Enfin, voilà, tu dois partager ton enveloppe, en fait. Enfin, c'est quand même un délire. Mais bon, bref, en tous les cas, donc ce truc de groupe de rock, c'est à un moment donné aussi, quand on était invité avec RERQ, quand on se déplaçait, on était six. Enfin, c'est tellement puissant, en fait. C'est trop fun.
C'était un festival itinérant ?
Bah non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on l'a fait une fois, mais en fait, il y a eu tellement de, je sais pas, d'attention, et il y avait une place pour ça, en fait. On l'avait pas pressenti, je sais pas comment dire... Mais voilà, en fait, c'était tellement puissant, en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, entre les personnes qui étaient là et les six voix, en fait, qui s'enchaînaient avec tellement de subjectivités différentes. Mmh. Enfin, voilà, qu'en fait, on a eu envie de le refaire, on nous a réinvités, voilà, et ainsi de suite, en fait. Ça, c'est juste... Mais c'est parti d'un truc vraiment très...
Spontané.
Eh oui.
C'est vrai que les voix ensemble d'un collectif, c'est une voix, puisque chacun ou chacune a la sienne propre, avec son caractère et sa matière. Mais dès que tu mets ensemble, ça fait un collectif et un son de groupe, quoi.
Oui,
et ça, c'est intéressant aussi sur le plan politique, c'est que ça représente aussi ce qu'on est, nous tous, en ce moment, en train d'essayer de faire. Malheureusement, tout va dans l'autre sens de la singularité, de la solitude... Je trouve que le son, pour ça, il est génial, puisqu'il maintient ensemble l'individu et le groupe.
Complètement. On a besoin. Ouais.
Et je voulais revenir, donc ton travail pose la question, en tout cas remet en question le binarisme de genre notamment. On parle beaucoup de sexualité. Et je voulais parler avec toi donc de ces questions-là dans la voix, parce que personnellement, donc j'ai une formation à la fois donc vocale en tant que chanteuse, beaucoup dans les musiques orales qui sont genrées mais d'une autre manière. Je dirais que une autre formation que j'ai reçue, qui est une formation classique et que reçoivent beaucoup de chanteuses en Occident, par le conservatoire, qui, comme son nom l'indique, conserve. Et en fait, ce qui est terrible là-dedans, je trouve, c'est que déjà, dès qu'on arrive, on est catégorisé par genre. Et ensuite, on va être catégorisé par hauteur de voix, qui est souvent reliée aussi à la question du genre, c'est-à-dire soprano, alto, par exemple, chez des personnes considérées comme femmes, et puis ténor, basse, baryton, voilà. Et en fait, le gros problème de ces catégorisations, c'est qu'elles viennent poser une représentation de la voix. Et c'est-à-dire que toi-même, tu vas te représenter ta voix selon ces critères-là qu'on t'a appris pour certaines personnes depuis qu'elles sont enfants. Elles vont venir poser un récit sur la voix qui est soi-disant sous un prétexte biologique, alors qu'en réalité, moi, mon propre travail ne cesse de venir justement dans les zones de porosité entre les questions de hauteur de genre, si on veut, mais aussi d'humain, de non-humain, d'humain, de machinique, en fait, de voir comment on va habiter sa voix aussi par l'intention, par des questions identitaires, par comment on se sent, comment et comment la voix, bien au-delà de catégorielle, en réalité, elle est hyper potentielle de transformation, de métamorphose. Et je voulais, voilà, en parler avec toi, savoir si qu'est-ce que tu en pensais de ça. Peut-être que c'est, enfin voilà, en parler un peu avec toi.
Mais c'est une vaste question, mais c'est passionnant. Ça revient encore à, enfin oui, à comment on nous façonne et à quel point l'identité est toujours au centre et il faut s'en débarrasser. Mais dans ce truc d'une voix non binaire, ou enfin, voilà, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est enfin on pourrait l'envisager de plusieurs. De plusieurs côtés. Donc je te parlais de donc je vais travailler avec deux personnes. Donc c'est une future collaboration avec des musiciens musiciennes franco-québécoises. Donc c'est Émilie Girard Charest qui est violoncelliste expérimentale, qui vient aussi d'une formation classique, mais qui a, enfin voilà, qui est dans la déconstruction permanente. Et voilà, mais du coup, qui a un registre complètement dingue. Et Hugo Perrina, qui est donc un chanteur contre-ténor, voilà, qui chante à l'opposé de sa voix masculine. Donc, il est dans un registre féminin, en fait, on dit ça, soprano, un truc comme ça. Je sais plus comment il...
Ouais. En fait, ouais, c'est des usages de la voix dans la musique occidentale savante qui sont qui sont un peu plus rares, qui sont moins mis en évidence que des voix dites masculines, alors qu'en fait, la voix dite, je sais pas, c'est toujours étrange cette question-là, mais à la capacité, et ça, on le voit dans les workshops, parce que moi, je donne pas mal de workshops vocaux. Ouais. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui découvrent que la voix dite masculine peut aller dans des hauteurs folles. En fait, c'est des registres qui sont très rarement explorés parce que dit du côté féminin. Et donc, le contre-ténor développe tout le spectre vocal. Et c'est des voix extraordinaires, en fait.
Ouais, ouais. Moi, j'ai trop hâte. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que là-dedans, on va rajouter... donc, on va travailler ensemble. L'idée, c'est de... on va travailler sur les spiritualités queer. Enfin, c'est ça aussi le sujet du texte qu'ils m'ont commandé ou proposé d'écrire. Et vu que je travaille aussi avec une langue post-binaire, qui est, avec la collective de typographie Bye Bye Binary, ce que j'aime bien, c'est... Parce qu'on est dans une... Donc, on est dans une écriture post-binaire, on s'est habitué, en fait, à lire ça, à lire des IL, des terminaisons avec des X, tout ça, c'est quelque chose qui commence à devenir, familier, presque, pour certaines personnes, en tous les cas, qui s'intéressent dans le milieu, tout à fait. Mais on l'oralise pas vraiment. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'entend pas encore. Mais du coup, dans cet échange qu'on va avoir avec Hugo et Émilie, c'est aussi comment transcrire ça avec la voix. C'est-à-dire que c'est... Bon, il y a et la voix non-binaire et l'écriture non-binaire ou la langue post-binaire. Et du coup, comment on le traduit aussi dans... à l'oral, ça va être une espèce de...
Et quand tu parles de spiritualité... Tu peux avancer sur ce beau mot.
Alors oui. C'est-à-dire que Hugo, par exemple, est catholique, pratiquant. Moi, je suis pas. J'ai pas de religion. Mais par contre, je me suis. Je pense qu'on manque cruellement de spiritualité dans nos vies. Et je la trouve peut-être ailleurs. En tous les cas, moi, j'ai proposé là de réécrire un... J'ai proposé de réécrire Georges Bataille. C'est juste que... parce que l'extase, en fait, tout ça, l'extase, c'est quelque chose qui fait vraiment partie des textes de Bataille ou de son... son travail. J'ai envie en fait de venir revisiter, voilà. Et vu que j'adore réécrire des textes de vieux man de la littérature, et ben c'est le moment où jamais. Ouais. Enfin, voilà, il y a quelque
Super.
Chose comme ça. Ouais.
Bah, peut-être on peut écouter un extrait ici d'un parce que on y entend un peu, moi je trouve. Une dimension spirituelle peut-être reliée à l'Antiquité, parce qu'on était dans quelque chose d'assez animiste, je trouve, dans ce qu'on va écouter. Peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, un extrait d'un duo avec Mona Servo qui s'appelle Simopolé Cyprine.
Angine Kétamine.
Kétamine observe Cyprine et Angine se baigner dans le torrent de ses larmes. Elle puise la salive des passants, gobe les doigts qu'on lui tend. Sa cul ouverte contre le rocher, sa cuisse chaude contre la rivière. Simopolé s'ennuie.
Simopolé s'ennuie.
Simopolé mesure 6 mètres de haut. Ses doigts sont grands comme des petits troncs. Sa tenue est vinyle. Cyprine serre sa taille et frôle sa sexe. Simopolé provoque des tempêtes.
Simopolé provoque des tempêtes.
Kétamine glisse son souffle à la lisière de ses creux. Déploie sa mousse à l'intérieur de son gouffre. Cyprine s'abandonne.
Cyprine s'abandonne.
De sol en sol,
de sol en sol, en sol.
À la verticale,
à la verticale, à la verticale.
Y elle traverse,
y elle traverse,
y elle traverse.
Transverse,
transverse,
transverse.
Métaverse,
métaverse.
Les griffes sales de terre,
sales de terre.
Les glaces et cristals épaisses,
sales, épaisses, sales, épaisses.
Des palaces qu'on a construits pour baiser,
pour baiser.
Le vert des plafonds,
vert des plafonds.
Le temps et l'espace,
le temps et l'espace.
Éclatent en mélange gluant,
mélange gluant.
D'air,
d'air,
d'air
et d'humus,
et d'humus,
et d'humus.
Ça pue,
ça pue,
ça pue. Mais elles aiment si vautrer,
elles aiment si vautrer,
elles aiment si vautrer. Les grégores en feu,
les grégores en feu,
les grégores en feu. Simopolé,
Simopolé,
Cyprine, Angine, n'écoute rien d'autre que de l'ambiante émo. Kétamine dit qu'il faut éviter les messageries instantanées.
Moi, j'ai l'impression d'être dans des paysages antiques,
C'est exactement ce qu'on a cherché à faire avec Anna. Là, c'est vraiment une collab. On collab aussi sur le texte. Donc, la musique qu'on écoute, c'est Mona Servo. C'est sublime. C'est, enfin, voilà, de l'ambiante comme ça, émo, électro et hyper deep. Et donc, là, c'est dommage, il y a un chant d'Anna qui vient après qui est magnifique. Mais voilà, quand on a... Et donc, on a vraiment... là, c'est encore un autre travail de collab où on a écrit côte à côte, déplié le paysage en cherchant, en fait, des matières, en se... on raconte une histoire. En tous les cas, on est plus dans une narration. C'est différent. Et il y a... Bon, là, on ne voit pas, mais on est trois maintenant. Et il y a Swan Bitum qui fait du VJing et qui fait des vidéos. Donc, c'est un truc complètement immersif qui rend... mais ça plane beaucoup. Il y a vraiment des moments très calmes comme ça, hyper... un peu intense, très sensuel, très de la forêt humide, de la mousse, des rivières. Et puis après, on finit vraiment dans une backroom, mais presque dans de la techno, en fait. C'est, Et donc, on le joue à Montreuil, à la Marbrerie, pour le Storm Frey Festival, le 7 décembre.
Voilà, soyez là, ça va être super.
Oui, on l'a jamais fait à Paris en plus.
Oui. Bah nous, en tant que Montreuilloise, on sera là.
On sera là.
Et par rapport à... Parce que là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton travail, où on sent la sexualité, la sensualité, tout azimut, quoi. Tout devient... Enfin, il y a une zone d'alliance, en fait, aussi avec tous les corps, qu'ils soient humains, non humains. Enfin, il y a quelque chose de très... qui est ce qu'on ressent, en fait, mais que tu arrives... c'est ton travail, tu arrives à mettre des mots sur des sensations très fortes. Et la notion de sexualité dans la voix, j'ai l'impression que ta voix, quand on l'écoute, parce que c'est encore quelque chose de lire un texte, mais là, quand on t'écoute, et peut-être encore plus dans d'autres extraits où disons que c'est encore plus, disons, poussé dans un érotisme encore plus cru et plus direct, quand on l'écoute, c'est comme si la voix devenait fluide, ce qui est aussi beaucoup de questions de fluide dans ton travail. Et là, c'est comme si elle pénétrait l'orifice oreille ou qu'elle venait comme ça inonder notre intérieur ou qu'elle venait faire vibrer par toute la peau, parce que le son, c'est aussi de la vibration. C'est aussi quelque chose de très tactile. Elle descend en nous et puis elle va comme ça dans les... dans le bas-ventre, et puis elle va venir activer, exciter quelque chose. Et en ça aussi, elle déclenche. Et ça qui est fou avec la littérature érotique et le poème érotique, c'est qu'il enclenche quelque chose du corps. C'est très spécifique, je trouve. Et donc, en ça, quelque part, il est révolutionnaire aussi, parce qu'il est, je trouve qu'il actionne. Je sais pas ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus.
C'est exactement c'est souvent le terme que j'utilise, en fait. Par exemple, je dis actionner la lectrice, mais c'est, pour moi, je me sers, je pense, de l'écriture sexuelle. Enfin, peut-être pas à la base. Peut-être qu'à la base, j'ai commencé à écrire le sexe pour être dans une sorte de provocation ou aller à un endroit qui n'était pas censé m'appartenir. Enfin, voilà, en tant que personne née femme. Et du coup, je c'était comme un, disons que je me suis emparée de ce truc-là. Après, il y a vraiment aussi cette jouissance à écrire des choses excitantes. Et après, il y a l'idée de maintenir en éveil. Enfin, si on peut parler d'un truc un peu révolutionnaire, je ne sais pas, c'est comment on se tient en éveil et comment, moi, l'écriture sexuelle me permet, en fait, de tenir en éveil un propos, en fait, ou de le garder éclairé, enfin, je ne sais pas, allumé, un truc comme ça. Et je pense que j'ai l'impression que je m'en sers comme ça. Et après, dans la diction, le fait de parler de sexualité ou d'aimer écrire des choses excitantes, je pense qu'il faut aussi du coup aimer les dire. Et
oui,
les,
c'est ça. C'est encore
ça
autre chose.
Avec. Ouais, mais faut que ça aille avec quand même, je trouve. Ouais.
Ouais. Parce que je me rappelle, dans une des émissions qu'il y a sur Internet, il y a une conférence que tu as donnée à Lyon où il y a une étudiante qui réagit Et c'est ça qui est intéressant avec peut-être avec la voix, c'est que les oreilles n'ont pas de paupières. J'emprunte l'expression, je m'en excuse à Quignard, mais en même temps, c'est tellement juste. Et la voix est pénétrante, quoi. Et là où tu peux fermer les yeux et décider de ne pas lire, la voix pénètre. Et que tu le veuilles ou non, enfin, à part te boucher les oreilles. Et d'ailleurs, c'est une technique que j'utilise pas mal dans les films d'horreur. Je vous la conseille. Quand j'ai trop peur, je me bouche les oreilles et du coup, ça marche vachement. Ouais, ouais, ouais. Et donc l'étudiante justement disait qu'on la sentait touchée, vraiment choquée presque par le fait de t'avoir entendue. Je sais pas si tu te souviens de cette chose-là.
Non, je me souviens pas de ce moment-là. Mais c'est fou en fait de se rendre compte de ce que ça peut faire, quoi qu'il en soit. Enfin, genre de l'émotion que ça peut transmettre. Enfin, c'est vrai qu'une fois que tu... Mais ça prend du temps à conscientiser, je trouve. Enfin... à comprendre ce que ça génère ou je sais pas en fait ce que ça transmet, un truc comme ça, mais enfin ouais
on n'est pas tous égaux égales aussi dans ce que ça provoque en nous. Tu sais jamais comment ça va être reçu en fait.
Bon, c'est un lieu de l'émotion quand même, et moi je suis accro aux émotions, enfin j'adore ça.
Je suis de la sensibilité émotive. Aussi le sens, oui. L'essence,
ouais.
En dehors, enfin peut-être ça va ensemble, hein, dans l'émotion révolutionnaire on la retrouve, mais la question de la lutte sociale, elle est aussi très présente chez toi, et c'est un truc avec Chantal, un truc, quelque chose, un petit truc auquel on est pas mal attaché, parce que les questions de lutte de classe aujourd'hui, je trouve, sont quand même moins mises en avant dans les luttes présentes, et chez toi, c'est quand même
central,
c'est assez
obsessionnel.
Ouais.
Et ça a commencé à quelle période de ta vie?
Je pense. J'ai vraiment pris conscience de plein de choses après les Beaux-Arts, par exemple. C'est-à-dire que j'ai lu des livres qui ont éclairé, en fait, par exemple, mon expérience en école d'art, que je n'avais jamais conscientisée au moment où je vivais des violences de classe énormes. C'est-à-dire que Enfin, voilà, quand tu viens pas d'un endroit quand t'as pas le bagage culturel, en fait, et que t'arrives dans des écoles d'intellectuels comme ça, tu dois évidemment rattraper beaucoup. Et, enfin, voilà, en fait, tout ça, en fait, tout ce rattrapage et tous ces codes que tu observes et que tu refais, et tout ce que tu lâches et tout ce que tu... Enfin, bref, tout ça, en fait, voilà, je l'ai conscientisé par la suite. Et après, c'est... Enfin, une fois que tu as pris conscience de ça, et ben, enfin voilà, en fait, comment tu peux te défaire du filtre que tu as. Enfin voilà, en fait, après c'est une grille de lecture, quoi. Et c'est des lunettes, je sais pas comment dire.
Oui,
mais une fois
bien.
Que tu. Une fois que tu les as, en fait, tu peux plus t'en débarrasser, et tu vois tout sous ce prisme systémique.
Ouais.
Et quelle chance, parce qu'après, ça te permet de comprendre.
Et c'est quoi ce qui t'aide? C'est quoi les alliés pour justement avancer dans cette... enlever les lunettes de la culture bourgeoise?
Je sais pas. Après, à chaque fois, je pense que... Je sais pas. Je pense que à l'heure actuelle, par exemple, je pourrais me sentir vraiment proche d'une scène décoloniale en France. Enfin, voilà, je parlais d'Olivier Marbeuf tout à l'heure. Enfin, je trouve que c'est encore... Enfin, que là, en fait, on... Enfin, voilà, Ouria Bouteldja, tout ça, c'est... Enfin, Louza Yousfi, il y a vraiment un endroit où la classe est intégrée, en fait, aux luttes de gauche anti-impérialiste. Et ça, c'est un... Enfin, voilà, ça, c'est un endroit qui me passionne et où je trouve encore, la lutte des classes au centre... au même titre que voilà qu'une lutte anti-impérialiste, ça fait partie en fait intégrante d'une pensée en train de se faire, et mais sinon en fait j'ai eu plein de déceptions, par exemple j'ai fait partie de plein de groupes militants anarchistes, des milieux hyper gauchistes où en fait je me suis rendu compte que les personnes qui prenaient la parole étaient étaient issus de milieux bourgeois tout le temps, et c'est pour ça que j'étais fascinée. Mais voilà, j'étais beaucoup plus jeune, hein. Je parle de ça, quand j'arrive à Paris, je sais pas, 25 ans, un truc comme ça, mais il y a vraiment une fascination, en fait, par exemple, pour les... Enfin, voilà, je viens de la gauche, quoi qu'il en soit, et voilà, je suis passée par plein de spectres, voilà, l'anarchisme, féminisme, enfin voilà, mais après c'est des trucs qui m'ont, que j'ai un peu dépassé, je sais pas où je me situerais maintenant quoi, mais par exemple là je sais que j'ai eu vraiment des déceptions dans les milieux de gauche quand même, si ça un impensé des fois, clairement, entouré d'intellectuels,
je vois très bien,
ouais, qui performent la précarité. Ça, c'est le pire. Et ça, beaucoup... c'est vraiment... Ça, c'est... Je ne peux pas laisser passer.
Et
quoi.
Tellement, tellement dans les milieux expérimentaux. Moi, c'est un truc qui me choque à chaque fois. Parce que, par exemple, ce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, c'est un truc que j'apprécie en toi, de dire comment tu es payé, comment matériellement tu fais, pratiquement, pratique, en fait, comment la pratique, elle est reliée à une économie. Et c'est un truc... Alors, pour ma part, j'ai été aussi très... assez démolie par les Beaux-Arts pour des questions de classe et j'ai réussi à conscientiser ça après les diplômes. Ouais. Et pendant 2 ans, quand j'ai fait les Beaux-Arts de Cergy, j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'ai compris a posteriori, voilà, suite à certaines lecture, ah ouais, ok, ce que j'ai vécu, en fait, c'est un mépris pour ma classe, qui est la classe moyenne de province. Et quand tu viens de l'extérieur, que t'as pas les codes et que t'as pas aussi tout l'héritage matériel que ça représente, c'est une entrée dans l'art et dans la vie qui est différente. Et c'est vrai que ça, on retrouve ça chez toi depuis même le début de l'entretien où tu dis comment tu fais très concrètement.
Mais parce que ça me met la haine aussi quand j'interviens en école d'art, je parle d'argent, parce que je trouve qu'on ne parle pas d'argent en école d'art et que c'est un gros problème et qu'on est entretenu dans un flou artistique dément. Et c'est très triste parce que c'est ce qui fait que quand tu sors de l'école, tu ne sais pas donner de valeur à ton travail. Tu ne sais pas combien coûte ton dessin. Tu ne sais, en fait, et c'est comme ça que tu te retrouves à bosser gratuitement et à accepter ça. Et genre, enfin, maintenant, il y a quand même, enfin, voilà, l'abus, tout ça, il y a des, on est en train de conscientiser, en fait. Les artistes sont en train de se syndiquer, de demander des statuts. Enfin, c'est, putain, ça met tellement de temps. Mais c'est un délire que ça échappe à l'économie, alors que quand même, on parle... Enfin, je veux dire, l'art, ça génère une économie délirante. C'est un marché, mais qui se fait, c'est de la spéculation sur les artistes. Enfin, les artistes, ils n'en voient pas la couleur.
Ne pas parler d'argent, c'est quand même très français aussi.
Et très bourgeois. Oui, c'est très bourgeois.
Et très bourgeois,
Ouais, très sûr. Français et très bourgeois, puisque quand tu n'as pas besoin d'argent, justement, tu n'as pas besoin d'en parler non plus.
Mais moi, j'adore parler d'argent. J'adore parler des... Je ne sais pas. En fait, parce que c'est un truc qu'on fait chez moi, en fait. C'est un truc qui me rassure, en fait. Ben, parler de, je sais pas, des économies qu'on fait, genre des, pas des économies parce que souvent on n'en fait pas, mais juste des bons plans, des, enfin tu vois, ce genre de truc. Ouais, la vie quoi.
C'est ça. Et en parlant de tout ça, je me dis, ça serait super si tu étais d'accord de nous lire un extrait du Manifeste des poètes vivantes.
Tout à fait. Alors, donc c'est un des manifestes de Fièvreuse Plébéienne, au début, qui commence par une citation de Cathy Hacker, qui dit « Il faut brûler les écoles. Ils vous apprennent à bien écrire. C'est une façon de vous empêcher d'écrire ce que vous voulez. » 1. Il faut se souvenir que tout est toujours emprunté aux autres. 2. L'autofiction est une oxymore qui exagère et met en exergue ce qu'a toujours été la littérature ou l'art. Une production autocentrée, mais tout du moins intéressante dans ce qu'elle témoigne d'une époque et d'une singularité. 3. Est expérimental ce qui questionne ou dérange la forme narrative traditionnelle afin d'actionner la lectrice. 4. On s'en fout de l'histoire tant qu'il y a du sensible. 5. Il est important de parler de sexualité de manière sincère et crue. 6. Le plagiat est bon. Il faut veiller à ce qu'il soit engagé à des fins politiques. 7. Le poème est le lieu du renversement dans ce sens qu'il peut prendre toutes les formes. 8. La poésie est l'affaire de tous. 9. Les genres se mélangent allègrement. Ce qui compte, ce sont les voix. 10. La poésie ne répond à aucun système marchand. 11. Sois drôle et fun et écris des trucs qui dérangent. 12. Sens-toi libre d'écrire ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce qui t'exprime et t'excite. 13. Aime sincèrement et totalement. 14. Ne cède pas à la peur.
Bravo. Merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que tu veux resituer d'où vient ce manifeste, peut-être ?
C'est vraiment dans cette continuité de... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans une volonté d'écrire un livre manifeste. C'est toute cette colère aussi, je pense. Tout ce truc de... tout ce flou artistique, là, c'est vraiment le... dans Fiévreuse, je pense qu'il y a une volonté très claire de ramener les choses qui me paraissent essentielles. Et c'est... Manifeste des poètes vivants, parce qu'on est tout le temps en train de parler des poètes morts. C'est aussi une spécialité française, ça, quand même. Donc, c'est quand même magnifique, quoi.
Comme si la poésie n'était plus là.
Oui, alors qu'elle est tellement vivante à l'heure actuelle. Mais c'est pareil pour la... dans toute la littérature, quoi. On a un problème avec ça, quoi. Et par exemple, il y a les poèmes d'Arthur Rimbaud-Laguine dedans, mais c'est parce que... Moi, j'en pouvais plus sur France Culture d'entendre parler d'Arthur Rimbaud, comme si, en fait, la poésie s'était arrêtée avec Arthur Rimbaud. C'est quand même un délire. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de produire des émissions culturelles sur Arthur Rimbaud. C'est fascinant, quand même. Et je me disais, mais alors, qui est le Arthur Rimbaud d'aujourd'hui, en fait ? En tous les cas, quand j'écrivais Fiévreux, je me suis dit, c'est une poète et elle est Gwyn. Et c'est ça.
Et justement, là-dessus, parce que tu parles beaucoup aussi de plagiat, d'emprunt, et tu vas, comme ça, quand tu lis tes textes, devenir, parce que le jeu, du coup, est ouvert, et tu dis « je », tu deviens Arthur Rimbaud, tu convoques Cathy Hacker, il y a aussi, il va y avoir Wittig, il va y avoir toute une Violette Leduc,
Artaud.
Et tu vas les, comme ça, un peu les... Même pas les ressusciter, les réincarner.
Les convoquer.
Les convoquer, ouais. Les invoquer peut-être.
Ouais.
Et c'est comme avec ce que c'est toute la question du spectre vocal aussi. C'est une des présences spectrales comme ça qui viennent en toi. Tu te laisses un peu...
Traverser.
Traverser.
Ça, c'est... toute cette pratique un peu du trouble identitaire et du jeu qui va venir prendre plusieurs voix, plusieurs formes. Ça m'a été enseigné par celle qui m'a tout appris, qui s'appelle Cathy Hacker, qui est une auteure punk américaine, magnifique, qui a défriché tellement de choses, et qui avait un humour décapant, et qui se permettait beaucoup de choses. Et si elle se permettait autant, c'est qu'elle était aussi complètement brillante et qu'elle maîtrisait absolument toute la littérature qu'elle utilisait, par exemple. Et sur ce principe de réécriture ou de... en plus, je trouve ça intéressant, par exemple, le jeu à notre époque où on est vraiment quand même pétri d'autofiction, qui est, je pense, des fois presque ce qu'on a inventé de pire ces derniers temps dans la littérature. Le jeu de Cathy Hacker et le jeu que je peux utiliser dans Fiévreux, c'est un jeu qui se rappelle, en fait, qu'on est constitué de plusieurs voix. En fait, c'est un peu de la récup. C'est, en fait, on vient de plusieurs littératures. On a tellement lu, on est tellement... rien n'est original, en fait. Ça vient juste... ça vient questionner l'authenticité, en fait, de la parole. Et oui, bien sûr, en fait, qu'on fait que ça de la récupération, comme dit Tiffaine Samoyo. Mais voilà, c'est comme quand on fait du sample.
La génération de notre amie Émilie.
C'est ça, Émilie H.
Ah ouais.
La sortie, elle s'appelle De la génération, tu sais.
Je l'ai pas lu.
Cette année.
Ok. Tu me conseilles.
Ouais, c'est vraiment très intéressant. Mais du coup, là-dessus, je me dis, on pourrait finir sur un Daily Girls.
Avec plaisir. Mais parce que, et juste, est-ce que je peux dire pourquoi j'ai choisi Daily Girls ?
Ouais. Ah bah oui, bien sûr.
Parce que, donc quand j'ai vu ce groupe, donc c'est... Simone Thiébaud, qui est mon amie et ancienne colocatrice, que j'adore et qui œuvre beaucoup pour présenter des scènes alternatives, de musique alternative à Paris. Elle est programmatrice pour une soirée qu'elle a initiée qui s'appelle la Parkingston. Et donc, elle avait invité Daily Girls, qui est un groupe new-yorkais. C'est aussi, Dani, c'était un étudiant des Beaux-Arts, par exemple. Donc, j'aime bien aussi, c'est de la musique qui s'est fait, qui vient d'école d'art. Et de toute façon, j'aime ces trucs DIY. Et comme Meryl, qui était à...
Sergi, on était ensemble avec Meryl.
Et, j'adore.
Même année.
Ah, oui, trop bien. quelle belle promo. Et Anna, pour le coup, Mona Servo, elle vient du milieu punk. Mais bon, c'est vraiment... auto-engendré. Bref, en tous les cas, Daily Girls, c'était un moment donné où j'étais vraiment... moi, je désespérais un peu des performances queer, que je trouvais très consensuelles. Tout ce qui est poésie queer ou prise de parole queer, je trouve qu'il y a un truc qui veut vraiment plaire aux hétérosexuels et qui m'angoisse, très fort. Et en ce moment, quand j'ai vu Daily Girls, ça a réveillé en moi. C'est du scream, C'est... quand Dani chante, il y a une espèce de puissance, de fureur et de ce qui me tient à cœur, qui est de rester menaçant. Il y a vraiment ça, Et c'est... c'est trop beau.
Ouais,
c'est un des meilleurs concerts que j'ai vus de ma vie. Ouais.
Ah. Et ben, on va écouter ça avec plaisir. You come in and try. Nothing you can say will make me change my mind. I'd rather die, stuck us in the dead. Nothing you can say will make me change my mind. You come in and try.
Gorge, maintenant, est-ce que tu peux nous indiquer l'agenda qui arrive, les choses qu'on peut attendre et savourer d'avance?
Le rendez-vous dont je vous parlais tout à l'heure à Montreuil, c'est-à-dire le 7 décembre à la Marbrerie de Montreuil pour le Stormfrey Festival avec donc Mona Servo et Swan Bitume. pour cette performance Immopolé, Cyprine, Angine, Kétamine. Voilà. Et là, je pars 2 mois en résidence à Marseille pour finir un manuscrit qui sera le prochain livre qui s'appelle Fatal ou l'impossible fantasme. Et ça parle de tout ce qui chute inévitablement, c'est-à-dire l'amour et le langage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. et après, donc ça, c'est ce livre, il va sortir avec des éditions camarades qui s'appellent Trou Noir. Voilà, donc, et ce sera pour fin avril 2025. Et il y a un autre livre qui va sortir, qui est un texte que j'ai terminé en 2021 et qui est la réécriture du Banquet de Platon. Anguine.
Genre... Génial.
C'est assez drôle de s'asseoir avec une maison d'édition amie qui s'appelle Clinamen Édition, qui est une maison d'édition basée à Genève en septembre 2025. Voilà.
Et bah, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Gorge.
Merci beaucoup, Gorge. Chantal et Violaine, merci.
Merci, et on se retrouve bientôt pour la prochaine émission de Zone Vocale.